RTL Original Podcast.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulle Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Georges Krieger, président de l'Union des propriétaires.
Bonjour.
Et Michel-Édouard Ruben, auteur de plusieurs ouvrages portant sur la question du logement au Luxembourg.
Bonjour.
Merci d'avoir pris le temps de venir en studio. Je vous invite aujourd'hui pour parler de la révision de la loi sur le bail à loyer qui est entrée en vigueur le 1er août, un sujet que vous connaissez particulièrement bien. Pour commencer, peut-être pourrait-on parler de ce qui a changé. Donc les grandes lignes, on les connaît, frais d'agence partagés, limitation à 2 mois de la garantie locative, encadrement de la colocation, fin de la notion de logement de luxe. Je profite de vous avoir en studio tous les deux pour vous poser la question suivante. La loi, telle qu'elle a été adoptée au début du mois d'août, va-t-elle changer radicalement les choses ?
Personnellement, je ne crois pas que la loi de 2024 va changer beaucoup de choses. La loi, il lui fallait longtemps pour rédiger cette loi. Disons qu'en fin 22, deuxième moitié 22, cette loi qui devait être une loi de bail à loyer est devenue de plus en plus une loi électorale. Mmh. Et de plus en plus, il y a un ou l'autre parti politique qui a essayé de mettre là des notions ou des thèmes dans cette loi qu'ils ont espéré très utiles pour les élections nationales, mais qui ont finalement raté l'adoption de la loi en 2023. Elle a dû être modifiée d'urgence par le nouveau gouvernement pour être adoptée maintenant en 2024. Mais en fin de compte, beaucoup n'a pas été fait. Surtout, ce qui n'a pas été fait, il n'y a pas un incitant, il n'y a pas un signal pour le seul acteur pour le moment à Luxembourg qui peut agir vite, immédiatement, c'est-à-dire l'investisseur privé. Il n'y a aucune incitation pour l'investisseur privé dans cette loi.
Très bien. Michel-Édouard ?
Alors, petite précision avant de vous répondre, je tiens à dire, au titre de la transparence, que si vous m'avez invité, c'est aussi parce que je suis celui qui a été connu sous le titre de locataire du Limpersberg et que, d'ailleurs, cette loi, quand elle a été déposée 76-42 en 2020, dans son avis, le Conseil d'État a dit que certains éléments de cette loi étaient une réponse à une affaire qui avait été médiatisée au Luxembourg et qui était connue sous l'affaire de locataire du Limpersberg. Donc voilà, je tiens à le dire, comme ça c'est clair pour tout le monde, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance et aussi la malchance d'être le locataire du Limpersberg. Bon, maintenant pour répondre à votre question, je suis d'avis que les fonctionnaires et les législateurs luxembourgeois sont des gens de grand talent. Hein. Ce n'est pas un avis d'ailleurs, c'est un fait. Et ça se comprend facilement. Hein. On n'arrête pas de dire que le Luxembourg a su intelligemment monnayer des niches de souveraineté et que c'est en partie grâce à ça que c'est devenu ou que ça s'est maintenu comme pays riche. Et que évidemment, si vous savez monnayer des niches de souveraineté, ben, c'est parce que nécessairement vous avez des fonctionnaires et des législateurs de grand talent. Bon. Et donc, quand vous savez que le pays a des fonctionnaires et des législateurs de grand talent et que vous voyez qu'ils ont mis 4 années, le projet de loi a été déposé en 2020, c'est devenu loi en 2024, vous voyez cela, 4 ans, et vous voyez ce qu'il y a à la sortie, franchement, il y a de quoi être déçu. Il y a de quoi être déçu parce que, ben, quand vous avez des gens aussi talentueux qu'ils finissent par faire quelque chose de si, je ne veux pas être mal poli, mais insignifiant, à l'aune de la situation, à l'aune des discussions qu'il y a eu, il y a vraiment de quoi être déçu. Vous savez, quand vous allez sur le site de la Chambre des députés et que vous concaténez, j'adore ce verbe, que vous concaténez l'ensemble des documents qui se rapportent à cette loi, vous avez 617 pages. Mmh. 617 pages pour finalement aboutir à ce que vous avez listé au début et qui, je le crois, je le dis, comme M. Krieger, aura en réalité un impact non significatif, disons-le ainsi, sur les rapports, sur la question de location au Luxembourg. Comme je suis quelqu'un de particulièrement gentil, je vais dire que la montagne a accouché d'une souris, mais en réalité, je suis d'avis que la montagne a fait une fausse couche, pour tout vous dire.
Donc au premier abord, cette révision de la loi, elle semble quand même aller dans le sens des locataires. Je prends pour exemple le partage des frais d'agence, la limitation à 2 mois de garantie locative. C'est une observation que vous partagez, et vous, en tant que président de l'Union des propriétaires, M. Krieger, comment est-ce que vous les accueillez, ces changements ?
Prenons un changement dont on parle beaucoup, mais qui est, je dis toujours, du peanuts, c'est-à-dire le partage des frais d'agence. Donc, on partage un gâteau. Mais personne ne dit quelle est la taille du gâteau. Jusqu'à maintenant, c'était les us et coutumes ici à Luxembourg de demander comme commission un loyer. Mais si maintenant une agence dit, ou toutes les agences disent, la commission est tout simplement de 5000 euros, il en est ainsi. Ce qui est beaucoup plus curieux et beaucoup plus discutable, beaucoup plus intéressant pour les avocats, on va avoir beaucoup de dossiers. Ça, c'est la question suivante. Il y a un, c'est-à-dire le propriétaire, qui signe un contrat avec une agence immobilière. Il doit la signer. La loi sur l'anti-blanchiment leur impose la signature d'un contrat. L'agence, elle, doit finalement faire une facture à l'un et doit faire une facture à l'autre. Il doit dès lors demander aussi à l'autre de signer un contrat. Et elle doit travailler pour l'un et on doit travailler pour l'autre. Ça va être vachement compliqué. Et surtout, ça va être vachement compliqué lorsqu'on extrapole tout ça vers la colocation.
J'aimerais aller un petit peu plus loin que juste parler des mesures adoptées. Bon, on les a vraiment évoquées, hein, mais j'aimerais partager mon sentiment à la lecture des révisions apportées à cette loi. Donc, quand je prends l'exemple de la colocation ou de l'obligation de mettre les contrats de bail par écrit, ça me dit qu'auparavant, vous me corrigez hein, si je me trompe, mais ça me dit qu'auparavant, le marché n'était pas forcément très encadré. Est-ce qu'il y avait des biens qui se louaient sans contrat de bail?
Oui.
Il y avait le contrat euro, notamment.
Il y a au moins, je dirais, un quart des contrats de bail qui sont euro.
D'accord.
La grand-mère qui dit à son petit-fils, écoute, alors va-t'en habiter là. Ou peut-être que quelqu'un qui dit à une copine, viens habiter chez moi. Toutes ces situations existaient. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a quand même pas mal de contrats de bail qui sont des contrats de bail euro. Beaucoup de contrats de bail sont faits entre les parents et leur enfant. Va habiter dans cet appartement. Mmh. Il me paye alors un loyer de 1000 euros et puis c'est fini. Qu'est-ce qu'on doit faire de ça? La loi dit que ces contrats sont nuls. Mais je rêve. Ça veut dire quoi, nul? Cette personne a habité pendant 3 ans dans un immeuble. Et tout ça, c'est maintenant nul. Ils ne savent pas ce qu'ils écrivent. Il faut mettre tout dedans. C'est-à-dire, il faut mettre là-dedans quel est le loyer, il faut mettre là-dedans quels sont les mètres carrés, quels sont les chambres,
cadastral. Etc.
Le numéro cadastral. Il faut déjà... Vous avez raison. Alors, imaginez-vous que vous loupez le numéro cadastral. Respectivement, que le numéro cadastral a changé en cours de route. Parce qu'il change régulièrement. Mmh. Et tout ça à peine de nullité. Je vous dis... Cette peine de nullité est intervenue dans la loi par pur hasard, par le fait que tout simplement les fonctionnaires dont vous parliez n'ont pas fait attention à ce qu'a écrit le Conseil d'État. Le Conseil d'État a, dans son dernier avis, écrit « Bon, sous cette forme-là, on ne peut pas le faire, alors je peux aussi m'imaginer à peine de nullité. » Un peu dans ce style-là. Mm-hmm. Et les fonctionnaires l'ont vu. Ah, le Conseil d'État a dit, le tout doit être à peine de nullité. Ils mettent le tout à peine de nullité. Ils ne savent pas ce qu'ils ont écrit.
Je tiens quand même, parce que je vois que la discussion prend déjà une tournure un peu juridico-juridique, je tiens quand même à dire que M. Krieger et moi, nous avons tous les deux, sans se coordonner, dit quelque chose. Moi, j'ai parlé de souris. Et M. Krieger a parlé de mesurettes. Mmh. Et là, et vous voyez, et c'est ça qui est à la fois intéressant et très dommage, c'est que nous sommes en train de discuter des problèmes que peuvent poser des mesurettes qui, nous l'avons reconnu d'une certaine façon, insignifiantes. Il y a là-dedans, je trouve, quelque chose de curieux et de dommageable, parce qu'en réalité, nous savons tous, nous trois qui discutons et les gens qui vont écouter, la substantielle moelle, la partie fondamentale, la partie problématique et est très intéressante de cette loi qui a posé problème et qui au final ne s'y trouve pas et qui est dans la relation qu'il peut y avoir entre les bailleurs et les locataires la question primordiale.
Mmh, on va y venir.
Je m'en doute, mais je n'en doute pas. Mais cela dit, là, nous avons passé un certain temps à parler des mesurettes et qui sont des mesurettes. Il faut les voir comme telles. Et je me permets juste de faire un petit retour en arrière, donc en fait, d'insister sur un élément de mesurette. Aussi, M. Krieger a parlé de la situation qui peut naître sur le fait que les agences vont se retrouver liées à l'un et liées à l'autre. Et moi, en fait, je me dis qu'il y a aussi un petit problème qui peut se poser. C'est qu'il se développe au Luxembourg le co-living. Et le modèle même du co-living, c'est d'avoir un certain turnover important du point de vue des locataires. C'est-à-dire, la personne possède le logement, il le met en co-living et en principe, on va dire, le locataire, il est censé, c'est un peu le modèle, il est censé changer tous les 6 mois, tous les 9 mois. Imaginez la situation du propriétaire qui a un bien en co-living, qu'il met en location en passant par une agence. Donc ça veut dire que le propriétaire, je ne suis pas du tout en train de plaindre les propriétaires ni de dire qu'ils sont à plaindre, mais ça veut dire qu'avec cette loi va naître une situation où potentiellement tous les 9 mois, tous les 6 mois
ils doivent payer l'agence.
Et ben, c'est ce qu'impose la loi et ça va peut-être donner des situations conflictuelles, mais comme l'a dit M. Krieger, ça fera le bonheur des avocats.
C'est là la principale critique que j'ai à faire par rapport à cette loi. Si elle n'a pas amené beaucoup de nouveaux, elle a surtout créé, pour le moment, un climat de méfiance qui n'existait pas les 15 dernières années. Avant 2006, on connaissait beaucoup de dossiers devant les commissions des loyers. Et un dossier devant une commission des loyers, c'est-à-dire mettre en doute une relation économique existante, si elle est correct ou pas correct, c'est une autre question. Mais la mettre en doute et forcer de maintenir cette relation est toujours une situation extrêmement tendue, une situation extrêmement litigieuse.
Je confirme.
Et je vous dis que là, avec cette nouvelle loi, on a versé de l'huile sur le feu. Cette situation tranquille qu'on connaissait pendant plus que 15 ans, depuis 2006, a été perturbée. C'est là l'élément principal qui est à rajouter. Vous avez parlé auparavant du co-living. Qu'est-ce qui s'était passé? Je suis d'avis aussi que la colocation doit être réglementée. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, au ministère, on a dit, bon, on va regarder ce qu'ont fait les Belges. On va copier ce qu'ont fait les Belges. Mais les Belges, eux, ils ont entre-temps changé leur loi parce qu'elle était complètement impraticable. Vous avez maintenant, j'ai noté ici ce qu'il vous faut. Donc, vous avez maintenant une chambre dans un co-living à donner en location. Il faut signer un contrat de bail. Il faut signer un pacte de colocation. Il faut signer et faire un état des lieux d'entrée pour l'un. Il faut signer un contrat, un état des lieux de sortir pour l'autre. Il faut, à chaque changement, signer un état des lieux intermédiaire. Il faut signer avec la banque une garantie bancaire pour le propriétaire. Il faut signer un avenant au contrat de bail de chaque autre personne qui habite là. Il faut rédiger ou modifier le registre des occupants à donner à l'administration communale. C'est grotesque. Ça, c'est le minimum obligatoire. Et personne n'a pensé à ça. Les Belges l'ont vu, ils ont dit, il faut arrêter avec ça. C'est aussi mon avis. Tout doit être fait par écrit. Personne n'a pensé à la question. Si c'est des locations vraiment à court terme, de courte durée, est-ce qu'on ne peut pas tout faire ça de manière informatique? Oser aller plus loin? Pourquoi ne faire pas avec 2 ou 3 clics et puis c'est fini? C'est pour cette raison qu'on a trop copié et on n'a pas assez réfléchi.
Oui, M. Krieger a raison. Alors, juste parce que, dit comme ça, ça fait peur. Je rappelle qu'on est dans l'ordre de la mesurette. Et je me permets aussi de dire, il y a tellement d'éléments de cette loi qui ne sont pas respectés que, bon, voilà, sans doute que celles-là ne le seront pas aussi. Parce qu'en réalité, parce qu'il faut aussi être conscient de cela, des choses qu'impose cette loi, des dispositions que rend possible cette loi et qui ne sont pas respectées, il y a quand même qui sont légion. Je me permets par exemple de citer l'article 28 de la loi qui existe, chaque commune est autorisée à demander annuellement auprès des bailleurs donnant location un ou plusieurs logements qui se trouvent sur le territoire de la commune, respectivement auprès des locataires d'un logement qui se trouve sur le territoire de la commune, des renseignements relatifs au montant du loyer et des charges locatives à payer aux bailleurs. Bon, il n'y a eu pas longtemps une question parlementaire, il y a un député qui a demandé au ministre quelle est la proportion de logements dont le loyer ne respecte pas la loi. Il ne le sait pas, c'est ce qu'il a répondu. Et je parle sous le contrôle de M. Krieger, je suis relativement certain qu'il n'y a aucune commune qui fait ce genre d'enquête. Donc si ça se trouve, les dispositions qui ont été nouvellement créées par cette loi, qui, nous l'avons dit tous les deux, relèvent de la mesurette, qui posent un certain nombre de problèmes, si ça se trouve, elles ne seront pas respectées non plus. C'est une façon comme une autre d'être philosophe sur la question, me dis-je.
Le simple fait qu'un registre national est censé être mis en place dans les prochaines années, ça indique déjà qu'ils ont très peu d'informations à ce sujet-là, de toute manière.
Je trouve que la démonstration que vous avez faite à l'instant est très, 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 très pertinente et cohérente.
Alors, on ne peut pas parler de cette loi sans évoquer la règle du capital investi pour déterminer le plafond d'un loyer. On l'a évoqué vite fait auparavant. Le ministre du Logement lui-même disait dans cette émission qu'elle n'a jamais vraiment été respectée. Vous l'avez évoqué également. Où en sommes-nous maintenant avec cette révision de la loi? On est bien d'accord que les règles liées au plafond des loyers n'ont pas été modifiées.
Il n'y a pas eu de changement, mais il faut peut-être savoir, parce que ceci est vraiment une curiosité luxembourgeoise. D'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de 1939. Là, c'est la base du problème. En 1939, il y avait, juste avant la guerre, il y avait déjà une énorme tension sur le marché locatif. Et pour mettre un terme à cette tension, on avait pris l'initiative de demander, de fixer un loyer forfaitaire. Pourtant, que je me rappelle, c'était 40 euros pour une chambre normale et 80 euros pour une chambre qui est un standard moderne. Vient ensuite la guerre. Après la guerre, un tiers de tout le patrimoine immobilier de Luxembourg était détruit. Il fallait retrouver des nouvelles bases en 1944. En 1944, on a dit, mais on reprend la loi tout simplement de 1939. Et immédiatement, on s'est rendu compte que ça c'est extrêmement contre-productif si on ne donne pas un incitant aux investisseurs. Tout reste là. Il faut qu'il y ait un quelconque incitant. C'est à ce moment-là qu'une disposition transitoire, à ce moment-là, qui a été prise pour dire, OK, cette loi de 39, on l'écarte dans l'hypothèse où quelqu'un construit quelque chose de neuf. Je construis quelque chose de neuf, dans ce cas-là, je ne suis pas lié avec ces dispositions, mais je dois me respecter alors ou donner, dire quel est le capital que j'ai investi dans la nouvelle construction. Et je ne peux pas demander plus que combien, mais on a fixé ça tout simplement à 5% parce que ça, c'était la moyenne des taux d'intérêt à ce moment-là, dans toute l'Europe et aux États-Unis. Cette disposition a travaillé, a fonctionné merveilleusement. De façon que, en 1955, lorsqu'on avait fait la base de la nouvelle loi, ou de la nouvelle, non, de l'ancienne loi revisitée, du bail à loyer, en 1955, on a repris cette disposition telle qu'elle. Et tout le monde était content. Tout le monde était content, on a enfin travaillé quelque chose, on n'a pas plus besoin de toucher à ça. Et plus personne n'a touché à ça, jusqu'en 88. Et ça, c'est devenu aberrant en 88. En 88, on a alors dit, OK, on arrête avec ça et on joue seulement encore sur le capital investi. Ce qui est très compliqué. Comment prouver le capital investi pour un immeuble qui a été construit en 1920? Alors, il fallait trouver des solutions à ceci. Et en fin de compte, on a dit également, mais est-ce que franchement, quelqu'un qui peut payer un loyer qui correspond à deux salaires, est-ce que lui, il doit profiter d'une mesure sociale? Et on a dit, OK, les logements de luxe, on les sort. Maintenant, la question du capital investi est mise en doute. Je vous dis que si vous voulez baisser la limite de 5% à 3,5%, dans ce cas-là, c'est très clair, il n'y a plus personne qui va construire quelque chose. Je prends tout simplement mon argent, je le dépose à la banque, je touche plus. Et je m'embête avec rien. Parce que la plus-value, on me l'enlève de toute façon par l'impôt sur la plus-value. Ça, c'est Le problème qu'on a maintenant, donc on ne peut pas vraiment toucher à ça. C'est une curiosité luxembourgeoise. Il y en a quelques-uns qui disent qu'il faut venir avec un autre mode. Par exemple, le Mietspiegel, c'est-à-dire de voir quels sont, de comparer les loyers avec les loyers à côté. Mais on n'a rien à comparer. On n'a pas les informations. Mais si on avait quelque chose à comparer, est-ce que vous savez comment ça va exploser? Parce que beaucoup de loyers... On dit que la loi n'est pas toujours respectée. Les 5%, ça c'est le maximum, mais beaucoup de loyers, surtout de personnes qui sont déjà longtemps dans leur logement, ne correspondent pas à 5% du capital investi. Et je ne parle pas des nouvelles constructions où vous payez 1 million ou 1 million 2 pour un appartement où vous deviez alors demander quelques 3 ou 4 000 euros pour un appartement comme loyer. Vous ne touchez jamais cet argent. Mmh. Il y a un élément que je voulais dire, ben, si vous voulez changer de régime de l'un vers le Mietspiegel, de la situation actuelle, c'est-à-dire capital investi, vers un comparatif, dans ce cas-là, ça va être hyper compliqué, ça va être le chou gras des avocats, le nombre de dossiers, ça va être fantastique, et je ne suis pas sûr que cette mesure, surtout lorsque vous regardez comment elle est appliquée en Allemagne et comment elle est appliquée en France, je ne suis pas sûr que ça vous donne quelque chose. Socialement satisfaisant. Disons ceci. Le problème avec cette adaptation du loyer reste toujours la suivante, c'est que vous cherchez une structure par une autre. Mais en fin de compte, le loyer reflète tout simplement la situation du marché. Une extrême tension entre le nombre de logements qui existent et le nombre de personnes qui en demandent. Au cours de l'année dernière, en 23 et en 24, le nombre des logements qui ont été terminés ici à Luxembourg est
dérisoire.
Je ne vais pas dire dérisoire, mais est environ seulement 25% de ce qu'il devait être. Pendant toute cette période, il y a chaque année plus que 10 000 personnes qui sont venues habiter ou qui veulent habiter au Grand Chez de Luxembourg. C'est-à-dire, nous avons une différence entre la demande, entre l'offre et la demande qui est énorme et qui s'accroît. Il faut travailler dans un sens que de répondre à cette énorme demande. Et le gouvernement, l'État, ou les communes, ou le fonds de logement, ou le fonds de Kirchberg, ou je ne sais qui, ne peuvent répondre. Les pouvoirs publics ne peuvent pas répondre à ça. Il faut que le privé le fasse.
Alors, M. Kiger a dit énormément de choses. Il a parlé de miroir des loyers. Il a dit que trouver le capital investi, était très compliqué. Il a parlé de nécessité de rebooster la demande, que le marché, que les loyers reflétaient une situation tendue sur le marché, qu'il y avait une baisse de la construction. Donc, M. Kiger a dit beaucoup de choses. Ça me fait penser. Et ce n'est pas une critique à M. Krieger, en fait, mais c'est quelque chose que j'ai observé quand on veut parler, qu'on fait systématiquement, quand on veut parler du capital investi et de cette règle. C'est qu'on parle énormément d'autres choses. Et ça me fait penser à ce qu'on appelle le principe passe-croix. Vous savez, le principe passe-croix, c'est un principe qui veut que quand vous êtes embêté par une affaire, vous suscitez une affaire dans l'affaire. Et s'il le faut, une affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne plus rien. Et encore une fois, je le dis respectueusement, je n'accuse M. Kiger de rien, mais je trouve qu'il a fait un peu cela en ne répondant pas à la question. D'ailleurs, j'ai oublié la question, de vous dire. Et en parlant, en disant énormément de choses qui sont vraies, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec la question que j'ai de toute façon oubliée, mais je sais que ça n'a pas grand-chose à voir avec la question. Je me permets, cela dit, en plus de tout ce qu'il a dit, de juste, et il a fait un tracé historique parfait sur comment on est arrivé au modèle particulier, c'est vrai, luxembourgeois de fixation des loyers. Le Luxembourg a ses particularités, c'en est une très bonne si vous voulez mon avis. C'est que cette histoire de 5%, qui dans la loi de 55, ce qui était écrit dans la loi de 55, c'était que le pourcentage de rendement du capital investi se ferait à l'intérêt normal de l'argent. Et il y avait un règlement grand-ducal qui a mis les 5% parce que c'était la moyenne de l'époque, mais aussi, et c'est très intéressant, que cette façon de faire, c'est-à-dire cette règle de 5% du capital investi, il est intéressant de voir que c'est une règle que, longtemps avant, Lorbed À une époque où on ne connaissait pas le mot RSE, mais où les entreprises avaient pratiqué le paternalisme intelligent et logeaient leurs salariés, l'Orbed pratiquait cette façon de fixer le loyer à 5% du capital investi. Donc ça montre à quel point l'histoire du Luxembourg est liée à l'histoire de l'Orbed. Je ferme la parenthèse. Maintenant, pour répondre à la question, même si je ne me rappelle pas exactement, mais pour répondre à la question, écoutez, des gens n'arrêtent pas de dire c'est très compliqué de déterminer le capital investi, etc. etc. Écoutez, c'est pas compliqué. Et puis, il y a des vraies choses compliquées. Il faut quand même pas, blaguer. On arrive à mettre des gens en orbite. Donc, on va pas dire que c'est compliqué de déterminer un capital investi. Et par ailleurs, je me fais remarquer qu'on arrive à pratiquer l'amortissement accéléré sur le prix de revient. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ceux qui s'y connaissent en droit fiscal comprendront. On arrive à déterminer la plus-value. La plus-value, si vous avez eu un bien que vous avez hérité et que le bien il était de 1920, vous en avez hérité, on peut calculer la plus-value aujourd'hui. La plus-value, il y a une circulaire très bien sur l'article 99 TR qui explique cela, c'est le prix auquel vous avez vendu moins votre prix d'acquisition ou de revient. Le capital investi, à peu de choses près, c'est le prix de revient. Les gens qui veulent faire croire que cette loi serait inapplicable parce que déterminer le capital investi, c'est compliqué, faut être sérieux. On est en 2024, le capital investi, alors évidemment, si l'idée c'est d'avoir le capital investi au centime près, on n'y arrivera pas, d'accord. Mais c'est pas le centime qui va changer quelque chose, en fait. C'est pas le centime. Il faut arrêter avec cette histoire-là, comme quoi ce serait compliqué, c'est pour ça qu'on viole la loi avec le sourire. Non, on viole la loi avec le sourire parce que ce que cette loi implique, personne ne veut l'assumer. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. M. Krieger, à un moment, a dit que la loi a pris une tournure politique. Et c'est ça, la tournure politique. C'est que les gens veulent être gentils. Ils veulent contenter tout le monde. Et j'ose le dire, avec la volonté d'être gentil, ils finissent par être malhonnêtes. Parce que dit cette loi? On ne va pas se parler tamoul. Que dit cette loi? La loi dit, le loyer, c'est en fonction du capital investi. Et c'est 5% du capital investi. Et qu'est-ce que cela implique? On peut le comprendre. Et c'est ça. Il y avait sur le site du ministère du Logement jusqu'au mois de juin l'ancienne brochure qui avait été présentée par le ministre Baudin en 2006 quand la loi a été réformée en 2006. Et donc là-dedans, on voit très clairement l'intention du législateur. Il y a des exemples précis là-dedans. L'intention du législateur, il est clair et c'est ça qu'aujourd'hui personne ne veut assumer parce que les prix immobiliers ont explosé. C'était pas prévu, mais ça arrivait. Et personne ne veut l'assumer. En fonction de cette loi, vous pouvez avoir un logement qui vaut cher, mais son loyer est extrêmement abordable. Et d'ailleurs, c'est tellement un fait, c'est tellement su qu'il existe encore aujourd'hui une brochure sur le site du ministère du Logement, brochure qui a été dictée, soit dit en passant, après l'affaire du Limpersberg, qui veut qu'une maison construite en 1970, dont le prix de l'époque est de 2 millions de francs. Donc ça veut dire que c'est un logement qui aujourd'hui va valoir dans le million d'euros. Légalement, le loyer de ce bien doit être de 765 euros s'il n'y a pas eu de travaux, d'investissements qui ont été faits là-dedans, ou de 1052 euros si les travaux ont été faits. Et ça là, vous êtes journaliste, vous pourrez le faire la prochaine fois que vous en rencontrez un politique de tous bords. Personne ne veut l'assumer. Ce qu'on peut comprendre, sauf que c'est la loi qui existe, hein. Personne ne veut l'assumer. Mais en même temps, personne ne veut explicitement dire... On ne veut pas que cela soit possible. On veut un système qui fait que les loyers de ce type-là doivent être significativement plus hauts pour se rapprocher des pratiques de marché, y compris des pratiques de marché qui violent la loi. Et le problème, il est là, en fait. Ça, là, ce que je viens d'écrire, c'est ce que permet la loi. Je peux très bien entendre, je peux très bien comprendre que des gens ne veulent pas ça, mais il faut qu'ils l'assument de le dire. Et ça, cela n'est pas fait. On a beaucoup parlé du fait qu'à un moment, je fais moi-même aussi un tunnel, on a beaucoup parlé du fait qu'à un moment, on a changé le taux de 5% à 3,5%. Et le ministre qui était en charge à l'époque a fait une communication autour de cela, qui a été une communication du genre pour faire en sorte que les abus cessent, j'ai baissé le taux. Donc évidemment, tout le monde voit qu'un taux passe de 5 à 3,5%, c'est moindre. Sauf que quelle était la réalité derrière ? La réalité, c'est que, la vérité, c'est que ce changement qu'il a opéré de baisser le taux de 5 à 3,5 était un changement qui a été fait pour permettre justement que d'avoir des logements de 1970 qui ont été achetés, qui ont été construits, où le capital investi est en francs luxembourgeois et qui devrait avoir un loyer très faible, ce qu'il a fait en changeant dans cette série d'amendements, ce qu'il a fait, c'est permettre que cela, faire en sorte que cela ne soit plus le cas. Sauf qu'il n'a jamais assumé de le dire. Il n'a jamais assumé de le dire. La preuve étant qu'il y a trois éminents membres du LSAP qui ont fait un communiqué de presse, je vais citer leur nom, c'est un document qui se trouve sur le site de RTL. Maxime Miljen, Ben Straff et Max Lenners qui ont fait un document où nous sommes en train de parler du Luxembourg, pays pragmatique, où les gens ne sont pas forcément comme moi, ils n'élèvent pas la voix. Il y a eu un communiqué de presse où ces trois membres du LSAP qui étaient dans un parti de coalition avec le ministre ont accusé le ministre de dissimulation. Et que le ministre a eu d'eux un consentement vicié par un dol politique. Pourquoi ils ont dit ça? C'est parce qu'ils ont dit le ministre a mis en avant la baisse du taux, mais il n'a pas mis en avant le fait qu'il changeait fondamentalement la façon de déterminer le capital investi, qui était tel qu'on ne réévaluait plus les biens en fonction de l'inflation, article 102 alinéa 6 de la loi, mais en fonction de l'évolution des prix immobiliers, ce qui faisait que, de fait, le modèle luxembourgeois était caduque. Et en fait, d'ailleurs, le ministre faisait en sorte que le modèle luxembourgeois était doublement caduque, parce que non seulement il changeait la façon de réévaluer le capital investi, qui fait que le capital investi venait le prix de marché, en plus il avait un article de loi dans son projet où il écrivait que le capital investi, écoutez-moi bien, était la valeur du bien au moment où le bien était hérité. Ce qui, je le dis respectueusement, est un non-sens économique absolu. Ce que d'ailleurs avait relevé, dans son avis, la justice de paix de Luxembourgville. Il n'avait pas écrit que c'est un non-sens absolu économique, ça c'est mes termes, mais il avait quand même fait comprendre que c'était un non-sens absolu économique. Bon, et la chose, tout le problème est là. C'est qu'il y a la loi qui existe, qui permet des situations que personne ne veut, ce qui, encore une fois, je le redis, peut se comprendre, mais personne n'ose assumer de dire qu'ils ne le veulent pas, parce qu'évidemment, ils veulent paraître pour des gentils avec une fibre sociale prolongée.
Je tiens seulement à dire ceci. Hein. C'est en novembre ou début décembre 22 que Cox a avancé cette idée du 3,5%. Les gens se sont frottés les yeux, personne ne voulait croire qu'il allait si loin. Il a publié, il a présenté un avant-projet de modification de projet de loi en février. Et même la DP, le Premier ministre à ce moment, M. Bettel, il s'est désolidarisé avec cette idée qui a été avancée par M. Cox. Il y a même à l'intérieur du gouvernement clairement une volonté, ça on ne veut pas. Et c'est pour cette raison que la loi n'a pas été approuvée ou n'a pas été votée avant les élections. Et c'est le nouveau gouvernement qui s'est vu obligé de faire quelque chose, qui a enlevé les modifications et les fantasmes de M. Cox, qui les a enlevés pour mettre en orbite au moins quelque chose qui n'a pas vraiment un grand impact sur le marché luxembourgeois, pour être franc. Mais surtout, c'est ça ce qui est grave, il n'a pas d'impact sur le marché luxembourgeois. J'aurais préféré une loi qui ait un impact positif.
Monsieur Kerr, je me permets, puisque vous êtes l'un des spécialistes du pays, indiscutablement sur ce sujet. Bon. La loi telle qu'elle existe, dans sa dimension détermination du loyer, qui soit dit en passant, c'est dans la brochure, l'objectif, la détermination du loyer telle qu'elle existe dans le droit luxembourgeois, c'est une règle de protection des locataires. Ce n'est pas M. Ruben qui le dit, hein, c'est le ministère du Logement, c'est dans sa brochure de M. Boden. Bien. M. Krieger, on est d'accord que la loi telle qu'elle existe aujourd'hui fait que, vous l'avez dit, le 5% n'est jamais atteint pour les biens nouveau, c'est arithmétique. Elle ne peut pas être atteinte pour les biens nouveaux. C'est arithmétique. Bon. Et donc, cette loi, elle va surtout réguler les biens qui ont été investis il y a un certain temps. Bon. C'est une brochure du ministère du Logement, je n'invente rien. Biens de 70, prix d'achat 2 millions de francs, quand vous réévaluez avec la loi telle qu'elle existe, vous arrivez sur un loyer de 765. Donc vous arrivez sur un loyer faible qui n'a rien à voir avec les loyers de marché. Monsieur Krieger, je me permets de juste poser cette question. Est-ce que vous seriez, oui, je pose la question conditionnelle, est-ce que vous seriez pour que la loi soit appliquée dans sa version telle qu'elle existe et qui permet que certains biens aient des loyers totalement déconnectés des loyers de marché, sachant que c'est ce que implique la loi, évidemment.
Écoutez, moi, il y a une loi, que la loi soit appliquée.
D'accord. Monsieur Krieger, est-ce que je me permets encore de vous poser une question ? Désolé, monsieur Ariano, je vole votre travail.
Mais j'allais vous le dire.
Est-ce que vous estimez anormal que la loi qui existe soit pas respectée dans cette dimension-là de façon aussi... dans une indifférence aussi totale et générale ?
Je vous réponds. Nous avons certainement l'étude qui a le plus contentieux de bail à loyer. Je crois au cours des 10 dernières années, on n'avait pas eu une seule affaire devant les commissions des loyers. Il y avait le calme. Et je vous dis, au cours des dernières années, et aussi surtout depuis le Covid, 21, donc 2021 jusqu'à maintenant, nous n'avons pas une augmentation du nombre des dossiers de non-paiement de loyer devant les juridictions civiles à Luxembourg. Et les juridictions civiles disent la même chose. Nous n'avons pas une aggravation de la situation des non-paiements. Il y a toujours des cas sociaux. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la situation ne s'est pas aggravée au cours des dernières années, contrairement à ce qu'on veut vous faire comprendre. Je veux encore dire quelque chose. Les loyers sont élevés à Luxembourg. C'est vrai. Alors comparons par rapport à d'autres villes. Mais il faut comparer par rapport à des villes qui sont comparables à la ville de Luxembourg. Luxembourg et ses environs, disons jusqu'à un hinterland de 10 ou 20 kilomètres. Quelles sont les villes qui ont la même structure sociale, la même structure économique, la même structure de richesse? Ce n'est pas Thionville. Ce n'est pas Arlon. Vous devez aller chercher alors des villes où il y a la même structure de revenus et sociales comme par exemple Berne ou Zurich. Vous allez voir, c'est la même taille à peu près. Vous allez voir quels sont les loyers là-bas, mais vous allez être étonné.
Je crois que la problématique, elle tourne plutôt autour du fait qu'il y a un volet de la loi qui n'est pas respecté. Les prix pratiqués sur le marché ne s'en rapproche pas, il est là le problème. C'est-à-dire non. Que si ce volet de la loi n'existait pas,
maintenant je vais quand même dire quelque chose.
Allez-y.
Sur 100 contrats de bail en vigueur aujourd'hui, en août 24, il y en a 90 qui ont plus que 5 ou 6 ans, où il n'y a pas eu d'adaptation du loyer. Il y a peut-être 10% qui sont des contrats de bail qui ont été signés au cours des 2 dernières années. La tension sur les loyers se trouve à ce niveau-là, des 10%, mais pas sur les autres 90% où le contrat de bail existe.
Ce que vous voulez dire, c'est que les gens n'ont pas de mal à payer. Ce qui ne change pas la problématique.
Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, l'écrasante majorité des locataires payent leur loyer. Ça fait mal, ça c'est vrai. Tout paiement fait mal. Mais la très grande majorité, l'écrasante majorité des loyers sont payés. Et il arrive des situations qui a tout à coup l'un ou l'autre est en retard d'un mois. Il ne va pas tout de suite au tribunal. Très souvent, il trouve un arrangement avec son propriétaire et de rattraper le retard par quelques mensualités. Et puis c'est fait.
Je vais vous poser la question à tous les deux, d'une autre manière du coup, vu que de toute manière, je crois qu'on a une image assez claire de ce que vous pensez de cette révision de la loi sur le bail à loyer. Quelle adaptation aurait dû être faite pour améliorer la situation sur le marché ? Ou est-ce qu'on aurait dû laisser faire comme ça marchait avant ?
Ma réponse est très claire. À part, bien entendu, de réglementer la colocation, et qui de toute façon est mal réglementée, le reste, c'était du inutile Et j'estime que le problème actuel du logement à Luxembourg n'est pas le bail à loyer.
Alors, juste à ma question, s'il vous plaît, Michel Dor.
Je suis navré, mais je vais faire un peu plus. Je vais juste faire remarquer quelque chose. Et j'invite les gens qui vont écouter cet entretien, puisque ce sera publié sur Internet, ils auront la possibilité de revenir en arrière. Je les invite à faire attention à quelque chose. Je ne sais pas comment le montage sera fait, mais faites attention à cela. Vous allez voir que j'ai posé une première question à M. Krieger, à laquelle il a donné une réponse de droit très simple. Il y a une loi qui existe. Il estimait normal que cette loi soit appliquée. Et quand je lui ai posé une deuxième question qui était justement sur l'application concrète de cette loi, il n'a pas répondu. Et il a répondu sur le fait que dans son cabinet, il n'y avait pas de contentieux sur le sujet et que les gens arrivaient à payer leur loyer. Ce que je veux dire par là...
On n'est pas ici pour faire un procès.
Ah non, je ne fais évidemment pas de procès à M. Krieger. Ce que je veux dire par là, c'est que cela démontre, je trouve parfaitement, ce que j'ai voulu dire avant, à savoir qu'il y a une... Il est difficile d'assumer ce qu'impliquerait le fait que cette loi soit appliquée. Je veux que ce soit clair, je ne fais absolument pas de procès à M. Krieger. Je suis ravi qu'il ait accepté d'ailleurs de venir discuter avec moi et j'espère que lui aussi. Mais ce que je veux juste dire, c'est que, et c'est ça toute la question en fait, parce que l'idée n'est pas de savoir est-ce que les gens peuvent payer le loyer ou pas. C'est une idée, mais c'est pas l'idée, c'est pas à cette aune qu'on doit apprécier la loi. La loi doit être appréciée à l'aune de est-ce qu'elle est respectée ou pas. Et je voulais juste faire remarquer ça. Maintenant, la question que vous avez posée, ma réponse est très simple en fait. Ma réponse est, il faudrait assumer ce qu'on veut. C'est-à-dire ce qu'on veut. Si on veut sortir du modèle luxembourgeois, il y a des bonnes raisons, on va être d'accord tout de suite en fait. On peut faire beaucoup de choses. On peut continuer à vouloir défendre le modèle tel qu'il existe en le faisant appliquer. Cela posera un certain nombre de problèmes, c'est factuel. Ou on peut dire, écoutez, on va libéraliser totalement le marché. Ce qui était d'ailleurs une recommandation du Conseil d'État en 2005, on va libéraliser totalement le marché et on va réguler le marché dans sa fonction loyer et on va réguler ce qui porte sur la salubrité, ce qui porte sur la colocation. Vous voyez, on va c'est une façon de faire. Mais la chose, et je trouve que c'est ça qui manque en fait dans la discussion, c'est que beaucoup de gens disent ils sont pour, ils sont contre, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, ils trouvent ça bien, ils trouvent pas bien. Mais très peu de gens disent clairement la doctrine qu'il voudrait, l'objectif qu'il voudrait atteindre. Et je me permets juste, encore une fois, de faire remarquer que la doctrine de la loi luxembourgeoise, telle qu'elle existe, est très simple. Elle dit, si vous avez un bien dans lequel vous avez une plus-value latente très importante, c'est-à-dire si vous avez un bien que vous avez acheté depuis longtemps, son loyer doit être en dessous du loyer de marché tel que pratiqué. La doctrine de la loi, le principe de la loi tel qu'il existe, c'est celui-là. On peut ne pas être d'accord avec, mais je trouve qu'il faudrait clairement le dire. Sachant que ça se respecte totalement de ne pas être d'accord avec. Mais il faudrait au moins le dire clairement et ne pas faire un changement de taux avec une reconsidération de coefficients qui fait que plus personne n'y comprend rien.
Laissez-moi simplement rajouter à ce que j'ai dit auparavant. C'est-à-dire que les tensions qui existaient ou qui, et la situation des paiements des locataires, pour le moment, aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires, le grand problème, c'est l'explosion, le dédoublement des charges. Auparavant, vous pouvez avoir dans un appartement normal des charges à hauteur de 200 euros par appartement. Tout à coup, sur quelques 18 mois, ça a dépassé les 400 euros pour ce même appartement. Le propriétaire reçoit le décompte du syndic, il dit « Mais c'est pas possible, comment je vais expliquer ça à mon locataire ?» Il est obligé de l'expliquer au locataire. Le locataire dit « Mais c'est pas possible, comment vous avez fait votre calcul ? On va calculer, on va recalculer. » Mais pour le moment, ce qui fait vraiment mal au niveau locatif, ce sont à l'heure actuelle l'explosion des frais connexe à la location et ça c'est ce qui est pour le moment la plus grande tension. Et beaucoup de propriétaires se disent, oh là 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 là, je suis obligé de lui demander 200 euros ou 250 euros de frais supplémentaires par mois et ils n'osent pas demander une augmentation de loyer en même temps. il n'y a pas beaucoup d'augmentation de loyer par rapport au nombre des contrats de bail.
Ce qui est un fait. Cela dit, c'est vrai, hein, que quand vous regardez le... Alors, ça ne peut pas être bizarre à dire, et là-dessus, vous voyez, je suis totalement d'accord et aligné avec M. Krieger. Les loyers, on les vit, les gens les vivent comme étant élevés, c'est un fait. Mais en réalité, quand vous regardez l'évolution des loyers existants au Luxembourg, elle n'a pas été historiquement très dynamique, ce qui se comprenait aussi par le fait que les gens savaient qu'ils avaient des plus-values latentes et aussi sans doute par le fait que les propriétaires aspirent à avoir des bonnes relations avec le locataire. Tout ça, ça reste vrai.
C'est intrinsèquement lié quand même au niveau de rémunération, de toute façon, au Luxembourg.
De toute façon. Mais cela ne veut pas nécessairement dire, et c'est là aussi que la chose est parfois biaisée, cela ne veut pas nécessairement dire que tout cela se fait dans les clous, parce qu'encore une fois, il y a une loi qui existe et qui impose un certain nombre de choses. Un loyer peut... Alors, il faut que tout le monde comprenne cela. Dans le contexte luxembourgeois, la loi qui existe fait qu'un loyer peut être relativement faible, mais quand même illégal. Et cette partie-là, tu vois qu'il y a des gens qui disent, bah, écoutez, le loyer est faible, les gens arrivent à le payer, donc il n'y a pas le sujet. Mais non, en fait, c'est un état de droit, il y a des droits, et la loi, ça impose.
Écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Monsieur Krieger, Monsieur Ruben, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de venir en studio. À nos auditeurs, nous nous retrouverons au mois de septembre pour un nouvel épisode de la Bulle Immo. Merci à tous les deux et à bientôt.
Merci.
Merci.